Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Benoît Feit au micro. Nous recevons ce soir une personnalité bien connue des fidèles des émissions télévisées laïques sur la RTBF. Depuis 5 ans, en compagnie de l'équipe du Centre laïque audiovisuel, il vous propose en effet régulièrement des entretiens à caractère philosophique avec des personnalités célèbres comme Stéphane Hessel, Luc Ferry, Henri Pénarouise, André Comte-Sponville, Edgar Morin pour ne citer que. Mais il va aussi à la rencontre d'intellectuels moins médiatisés, comme récemment Annie Lebrun et Nicolas Pierre par exemple, et cela toujours pour le plaisir de faire circuler la parole et la pensée. Il vient de publier un dernier ouvrage édité par Présence et Action Culturelle intitulé « Imaginaire pour des mondes nouveaux, cheminement insoumis en philosophie politique ». Jean Cornille, bonsoir.
Bonsoir.
En quatrième de couverture de cet ouvrage que j'ai entre les mains, vous vous présentez comme un chercheur d'étonnement. Une formule qui explique peut-être vos virages professionnels successifs. Vous avez été tour à tour conseiller ministériel, directeur adjoint du Centre pour l'égalité des chances et de la lutte contre le racisme, sénateur, député fédéral et à présent auteur et chroniqueur philosophique. Alors Jean Cornille, cette recherche d'étonnement que vous évoquez dans votre ouvrage n'est-elle pas en fin de compte le fil rouge de votre parcours professionnel ?
Absolument. D'abord un tout grand merci d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte progressivement avec les aléas de l'existence que ma grande passion, le grand amour de ma vie, en dehors de mon épouse, c'était la philosophie et les sciences sociales et les sciences de la nature, c'est-à-dire au fond ce que je cherche dans une quête infinie, c'est d'essayer de comprendre les grilles d'interprétation que les hommes se sont données, les fables, les mythes, les grandes philosophies, les religions, le monde de l'esthétique, le monde de la science, évidemment, pour décrypter et donner un sens, si d'aventure on peut en donner un, à la fois à leur existence personnelle, existentielle, et en même temps à l'évolution du cosmos, à l'évolution du monde. Et donc, je me suis rendu compte que c'était une passion chevillée en moi, pour des raisons d'ailleurs relativement énigmatiques et mystérieuses, mais moi j'aime le sentiment océanique de la connaissance, j'aime cette, comme dirait le grand philosophe latin Lucrèce, l'épicurien, cette volupté divine qui est de comprendre. Spinoza avait une très belle formule, il disait « plus je comprends, plus je suis moi-même », que je répète souvent, et c'est cette démarche-là, dans une quête infinie, que j'essaye maintenant.
Une quête d'autodidacte, il faut le dire.
D'autodidacte, je ne suis pas du tout philosophe, je regrette d'une certaine manière de ne pas avoir fait, en sortant de l'Athénée il y a bien longtemps, la philosophie, mais je le compense autrement, et donc effectivement, si je lis pas chaque jour quelques pages, voire quelques heures de philosophie, ou en tout cas des clés qu'un certain nombre de grands intellectuels ou de savants ou d'artistes me donnent pour comprendre le monde, si je ne fais pas ça, d'une certaine manière, ma journée est perdue. Et donc, je veux tranquillement, très sereinement, mais avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de résolution, décrypter pour moi-même, d'abord, décrypter, je dirais, les récits, les grandes narrations, la dramaturgie du monde, mais j'ai aussi envie d'être un modeste, un humble passeur qui essaye de transmettre, d'ailleurs dans une logique d'éducation populaire, d'éduquer.
On reviendra sortir, d'ailleurs sur la notion d'éducation populaire au cours d'émission.
C'est sortir hors de soi-même et donc de transmettre, je dirais, le génie des grandes compréhensions du monde me paraît quelque chose d'absolument passionnant et d'absolument essentiel aussi pour transformer le monde.
Est-ce que cet engagement personnel, cette recherche philosophique que vous menez aujourd'hui, vous le voyez comme un prolongement de votre travail en politique ou bien est-ce qu'il s'agit plutôt d'une rupture?
Alors c'est à la fois un prolongement où j'ai effectivement choisi de prendre un petit peu de recul par rapport à l'agitation chronophage, si j'ose dire, de la vie politique.
Ça use la politique ?
Ça use et je pense que c'est... par moment, pour moi en tout cas, je l'ai senti comme extrêmement répétitif et d'une certaine manière peut-être un peu stérile. Sans entrer dans une critique de la démocratie moderne, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que je l'ai ressenti comme une forme de stérilité. J'avais compte tenu du fait qu'on a une vie qui est courte par rapport à l'ampleur du temps cosmique et par rapport à l'ampleur, je dirais, infinie de la connaissance, j'avais envie d'avoir plus de temps, je dirais, pour moi, pour réfléchir, mais aussi pour passer un certain nombre de grandes philosophies, de grandes conceptions du monde. Donc c'est à la fois, je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait dans le monde de la politique ou bien au Centre pour l'égalité des chances. Ça a été des moments exceptionnels. J'ai rencontré des gens absolument passionnants. J'ai fait des missions parlementaires passionnantes aux quatre coins du monde. Mais j'avais envie à un moment, à passer la cinquantaine, si j'ose dire, de me recentrer sur ce qui est pour moi mon ADN intellectuel, me recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire de questionner le sens de notre présence au monde et en particulier de ma présence au monde.
Pourtant, dans votre dernier livre, vous expliquez vouloir avant tout nous livrer, je vous cite, « quelques éléments épars pour élargir la pensée, détourner le regard, forger de nouveaux sens, inventer des pratiques alternatives, mieux vivre devant les troubles de l'époque et les impasses de nos civilisations ». C'est quelque part une démarche politique, ça.
Bien sûr, mais moi j'entends la politique comme le politique, comme dirait Régis Debray, que malheureusement je ne parviens pas à organiser un entretien avec lui, parce que c'est un homme qui me fascine et qui me passionne, et c'est peut-être un des intellectuels les plus profonds, je dirais, de la France contemporaine. Il est absolument passionnant, et donc effectivement c'est une démarche politique aussi, parce que je pense que développer l'esprit critique... Passer l'idée de la passion, de la connaissance, ça me paraît quelque chose d'absolument essentiel. C'est donc aussi une réflexion sur l'éducation, c'est aussi une réflexion sur l'école, sur l'enseignement et sur tous les débats qu'il y a autour. Donc pour moi, je n'imagine pas forger des citoyens du monde capables de comprendre les basculements civilisationnels, comme dit Edgar Morin, que nous sommes en train de vivre.
Vous parlez ici des impasses de nos civilisations.
Absolument.
Mais vous pensez à quoi quand vous... précisément ?
Alors précisément, nous sommes à un moment historique incroyable. Certains intellectuels, je pense au paléontologue André Leroy-Gourand, dit « nous sommes en train de sortir du néolithique ». Je vous rappelle que le néolithique, c'est une période qui oscille entre 10 000, 8 000, 6 000 avant Jésus-Christ. Donc on clôt une séquence historique pour un certain nombre d'intellectuels et de savants qui est de 10 000 ans. Pour vous dire que la crise depuis le choc pétrolier de 1973, ce n'est qu'un petit frémissement, une petite ridule sur l'océan, si j'ose dire, de l'évolution du monde. Je vous donne quelques exemples extrêmement concrets. Extrêmement concrets. On est en train de passer d'une société de l'agriculture à la ville. Ça fait 10 000 ans que l'homme, principalement, est un rapport, je dirais, à la terre et donc aussi au temps, à l'espace, qui est fondé sur son rapport à la nature, à l'agriculture. Les Nations Unies, d'après les statistiques, nous annoncent que nous serons bientôt à 70-75% des urbains, avec toutes les transformations du rapport à l'autre, du rapport à soi-même, du rapport au monde, que la vie urbaine, si j'ose dire... comme conséquence pour notre représentation du monde. Nous avons une espérance de vie qui est en train d'augmenter de manière absolument fulgurante. Une femme était, comme dit Michel Serres, au début du 19e siècle, à 35-40 ans, une femme ou un homme, mais surtout une femme, était vieille. Aujourd'hui, on doit repenser un temps de vie qui n'est plus de 40 ans, mais qui est de 80 ans. Et c'est d'ailleurs, je pense, une des inégalités clés dans le monde aujourd'hui, c'est l'espérance de vie. Elle est de l'ordre de 80 ans, plus ou moins pour les hommes et les femmes en moyenne dans les pays industrialisés. Elle est de 48 ans au Mali. Bon, la première grande inégalité dans le monde, pour moi, c'est le temps de vie disponible, si j'ose dire. Parce que ça, c'est vraiment une inégalité scandaleuse. Donc cette transformation-là est aussi une transformation fondamentale. La démographie est une transformation fondamentale. On a... en moyenne, je dirais, en fonction évidemment des événements historiques de la peste noire, ou en moyenne, on est resté plus ou moins de l'ordre de 500 millions à 1 milliard et demi de personnes, ce qui est, nous étions encore au début du 20e siècle. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards et les projections des Nations Unies disent qu'en 2100, nous serons, selon les scénarios, entre 7 milliards et 17 milliards. Ça change tout. Donc ce que je veux dire, c'est que des invariants anthropologiques, des constances dans l'histoire sont restées pendant des siècles et des millénaires et des millénaires. Et aujourd'hui, en quelques décennies, nous basculons à la fois sur le plan de l'agriculture, à la fois sur le plan de l'espérance de vie, à la fois sur le plan de la démographie, à la fois sur le plan des transformations de l'écologie. Et donc effectivement des bouleversements, je dirais, des écosystèmes qui sont eux aussi sur un temps historique extrêmement extrêmement longs et qui sont aujourd'hui dans une accélération et dramatique, je dirais, dans les transformations du climat, le recul de la biodiversité, enfin, beaucoup d'aspects. Vous avez, et je termine juste, pardonnez-moi, par cet exemple-là, vous avez aussi des transformations incroyables dans l'évolution des sciences et des techniques. Donc la société de la production classique, même si elle était agricole puis industrielle, aujourd'hui vous avez la société de l'information. C'est l'information, c'est le virtuel, tout est en train de changer. Tous nos modes, je dirais, culturels sont en train de changer. Et tous ces basculements-là sont interprétés à la fois par des philosophes, par des savants, par des gens qui travaillent dans les sciences
justement,
humaines. Et cette époque-là, elle est passionnante.
Est-ce qu'il est plus facile de prendre conscience de l'ampleur du changement que vous décrivez quand on regarde le monde avec des lunettes de philosophe, comme vous le faites aujourd'hui, plutôt que quand on le regarde avec des lunettes de politique en ayant comme échéance un mandat à 4 ou 5 ans?
Je pense qu'il faut du temps, que la connaissance est un très très long chemin, infini d'une certaine manière, et que l'immédiateté, je dirais la nécessité de répondre aux souffrances réelles des citoyens aujourd'hui dans nos pays, mais aussi singulièrement dans les pays du Sud, c'est évidemment quelque chose d'absolument essentiel, d'absolument fondamental. Mais je pense qu'il faut prendre du recul pour prendre, sans être prétentieux, de la hauteur, pour pouvoir tracer, comme dit Edgar Morin dans un de ses derniers livres, une voie pour l'humanité. Et donc le politique, la difficulté, c'est qu'il est né, pardonnez-moi l'expression, le nez dans le guidon, il est dans l'immédiateté, et il est contraint par, je dirais, un espace limité qui est soit la commune, soit la région et la communauté, pour prendre la Belgique, soit le territoire national, alors que les problèmes sont évidemment avant tout d'essence international, d'essence mondiale. C'est le problème de l'évolution de la biosphère. C'est ça. C'est la planète Terre, le problème. Et dans le temps, évidemment, nous sommes par les cadences démocratiques limitées aux échéances électorales, c'est-à-dire 5 ou 6 ans. Alors que les problèmes doivent être pensés, évidemment, sur 10, 20, 30 ou 40 ans. Donc, comment penser le monde, je dirais, du futur pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants? C'est eux qui vont éventuellement subir les conséquences, si j'ose dire, des politiques en partie irresponsables de productivisme, de croissance, je dirais sans limite, que aujourd'hui les gouvernements mettent en place.
Vous souhaitez également, dites-vous dans votre ouvrage, éveiller, je vous cite à nouveau, et transmettre au travers d'une humble démarche d'éducation populaire. Alors qu'est-ce qu'une démarche d'éducation populaire pour vous?
Alors pour moi, une démarche d'éducation populaire, éduquer, c'est exducere, c'est, comment dirais-je, étymologiquement du latin, se conduire hors de soi-même, se hisser un peu plus hors de soi-même, et donc pour moi, une démarche d'éducation populaire, c'est un prolongement permanent à la fois de l'éducation familiale et évidemment du système de l'enseignement obligatoire, par une réflexion et le caractère, je dirais, aiguisé de l'esprit critique dans le sens de argumentation rationnelle, argumentation profonde sur la compréhension de la réalité du monde. C'est ça que je trouve important dans l'éducation populaire, c'est de donner des outils intellectuels, historiques, conceptuels aux citoyens pour qu'ils puissent se forger une analyse du réel, une analyse du monde, en ce compris les grands bouleversements que j'évoquais, mais aussi l'évolution, je dirais, politique d'aujourd'hui avec les pays émergents, avec l'évolution du capitalisme, avec la marchandisation du monde, avec l'argent qui devient roi, une réflexion sur la nouvelle communication, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Facebook, Google, Amazon, est-ce que c'est eux qui doivent d'une certaine manière forger notre temps de cerveau disponible, comme disait l'ancien patron de TF1, ou bien est-ce que, à la fois à travers les grandes œuvres de la sociologie comme Pierre Bourdieu, à travers les grandes philosophies d'Épicure à Nietzsche, en passant par Marx, par
Spinoza... Et tout ça peut être vulgarisé au point d'être rendu accessible au commun des mortels?
Alors, moi, évidemment, je le fais de manière à ma façon. Je ne me prétends pas du tout un scientifique et un spécialiste de ces questions-là, qui sont des questions extrêmement difficiles. Mais je pense que toutes ces pensées de l'histoire, des sciences sociales, de la psychanalyse, du marxisme, de la philosophie et des grandes religions aussi, parce que ce sont des éléments qui permettent de donner un sens au monde, sont des éléments qui peuvent en tout cas être pour une part exprimés dans des termes pédagogiques, dans des termes didactiques. Et il y a des gens absolument passionnants qui transmettent, je dirais, je pense à Michel Onfray, à son université populaire à Caen. Je pense aux livres de Luc Ferry qui sont absolument passionnants et lumineux, je dirais, d'intelligence pédagogique, et bien d'autres philosophes. Je trouve que Là, on a, comment dirais-je, une présentation absolument passionnante des différentes grilles de décryptage du monde. Et après, on fait son choix. Après, on, voilà, à chacun, je dirais, de déterminer le sens de sa vie.
Jean Cornil, vous parliez tout à l'heure de prendre un peu de hauteur. Eh bien, je vous propose de prendre un peu de hauteur et de distance quelques instants avec une courte pause musicale. Et le choix est bien trouvé puisque nous écoutons Les oiseaux de passage de Georges Brassens. On se retrouve juste après.
Ô vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né, je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque, elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous ont ainsi fait, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là. Cela n'est point hideux, ce canard n'a qu'un bec, et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre. Un coucou régulier et garanti disant « Oh les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement un grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe, où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol, regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. » Ils vont tout leur désir, le vœu, par-dessus mont, et bois et mer et vent, et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux, mourra ces pauvres gens, ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, jeunes oies édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut que, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, jeunes oies édifiantes. Rien de vous ne pourra monter aussi haut que. Et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Jean Cornil, ces oiseaux de passage, ils évoquent quoi pour vous ?
J'adore Georges Brassens. J'ai été très ému parce que l'année dernière, j'ai été à Sète, dans le musée que la ville de Sète a construit autour de l'œuvre de Brassens. Et je suis fasciné à la fois par la subtilité de la ligne mélodique de ce poète et en même temps par... On me demande souvent quelle est ma patrie. Moi, ma patrie, c'est la langue française. Moi, je voudrais avoir sur ma carte d'identité, non pas belge, européen ou citoyen du monde, mais...
Francophone.
Amoureux de la langue française. Peu importe où elle s'exprime dans le monde.
Et pourquoi
je trouve
donc
là, parce que mon rapport aux mots... Ce que Bernard Pivot disait, les mots sont des êtres vivants, mon rapport au livre, à la langue, à l'écriture est pour moi quelque chose, sans doute avec le rapport au son et avec la musique. Je suis un inconditionnel absolu, par exemple, du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, et j'écoute en boucle quand j'écris mes articles.
Vous composez d'ailleurs de la musique, si
je compose un petit peu et je suis un très mauvais pianiste, mais j'ai fait de la musique classique depuis très très longtemps et donc je reprends effectivement et j'aime bien improviser au piano. boulot. Et donc, voilà. Donc, cette combinaison entre le vertige de la langue et la subtilité de la ligne mélodique, en particulier chez Georges Brassens, moi, me ravit. C'est pour moi le summum de la beauté de l'esthétique de l'art d'aujourd'hui.
Eh bien, continuons à parler de mots, de pensées et de livres, et en l'occurrence du vôtre, puisque je le rappelle pour les auditeurs qui prennent cette émission en cours de route, Jean Cornille, vous venez de publier un dernier ouvrage édité par Présence et Action Culturelle qui s'intitule « Imaginaire pour des mondes nouveaux, cheminement insoumis en philosophie politique ». Alors, ce cheminement, vous le menez notamment en télévision, puisque vous proposez depuis 5 ans déjà des entretiens avec des philosophes pour les émissions concédées laïques, La Pensée et les Hommes en son temps, et désormais pour Libre Ensemble. Quelles ont été vos rencontres les plus marquantes ?
Alors, j'ai eu la grande chance de pouvoir rencontrer des gens pour qui j'ai une grande admiration, soit parce que ce sont des très grands philosophes. C'est pas pour autant que je partage d'ailleurs.
Je pense savoir de qui vous allez nous parler.
Oui, d'Alain Finkielkraut, certainement, que je considère comme un très très grand philosophe, mais dont je partage pas du tout la vision de l'identité, la vision de la nation, la vision de la France, mais qui sur certains aspects, comme l'école, mais surtout sur la nature, sur l'environnement, parce que c'est une de mes préoccupations. Et quelqu'un, je trouve, de très, très, très passionnant. Mais surtout, j'ai voulu peut-être mettre en avant certains philosophes qui sont moins connus que Michel Onfray, que Luc Ferry, qu'Edgar Morin, que André Comte-Sponville, mais qui, je trouve, aujourd'hui, sont des penseurs qui ont, selon moi, très modestement, une grande profondeur. Je pense en particulier à Jean-Claude Michéa de Montpellier, qui est un penseur spécialiste, je dirais, plutôt du libéralisme, mais en même temps anarchiste, d'origine communiste, qui a une profondeur dans l'analyse, je dirais, du monde politique aujourd'hui, des nationalismes, des populismes, de l'évolution du Front National, de la montée de Marine Le Pen, qui est absolument tout à fait passionnant. Et en plus, comme ce sont souvent des gens qui n'ont pas spécialement envie de s'exprimer dans le monde audiovisuel, ce sont des gens de l'écrit, qui aiment bien traduire, je dirais, leurs pensées par le livre, j'ai été évidemment extrêmement heureux qu'il accepte qu'on aille le trouver à Montpellier, chez lui, dans son petit appartement, avec son épouse vietnamienne, entre les Bouddhas et les portraits de Staline, si j'ose dire, en caricaturant les choses, entre les petits poissons et en même et les chats. Et donc il y avait à la fois, je dirais, cette rencontre de la culture, je dirais, asiatique et d'une forme de sérénité, de spiritualité orientale, et en même temps, je dirais, toute la réflexion sur les grands courants de l'histoire, notamment au travers du marxisme et du communisme. Donc c'était une très très belle rencontre. Je pensais aussi à Robert Redeker, qui est un philosophe qui a subi, je dirais, une fatwa et qui vit dans la clandestinité dans le sud de la France, entre Toulouse et Carcassonne. Et
je trouvais... c'est clandestin, dites pas trop précisément.
Voilà, c'est large, hein, c'est large. Et donc effectivement, les gens qui se battent aujourd'hui pour leurs idées, je rêve de rencontrer par exemple Kamel Daoud, le journaliste algérien qui a écrit Meursault contre enquête, le pendant, je dirais, de L'Étranger d'Albert Camus.
Donc ou la suite, ouais. Version algérienne.
Absolument. Donc ces gens-là, je trouve, sont d'une certaine manière des héros de la pensée, des héros de la résistance, je dirais, aujourd'hui, face à tous les dogmatismes, face à tous les intégrismes, face à la pureté dangereuse, face aux conceptions fermées, tous ceux qui veulent enclore l'esprit, qui mettent, je dirais, la pensée dans un cachot, dans une cellule, dans une prison. Et moi, ce qui m'intéresse,
voir dans une nation.
Voir dans une nation, ou dans un groupe social, ou dans un sexe, ou dans une identité ethnique. Donc moi, je suis fondamentalement, pour le dire autrement, avant tout un universaliste. Je pense qu'il faut mettre en avant ce qui rassemble les êtres humains et pas ce qui les différencie. Nous sommes dans une petite planète, comme vous savez, dans un univers en expansion qui a déjà au minimum 14 milliards d'années. On sait que la planète Terre, le Soleil va s'éteindre dans 5 milliards d'années. Je sais bien que c'est un peu grandiloquent de dire ça, mais c'est dans cette perspective-là. Nous devons tous être solidaires. Nous sommes tous, je dirais, sur le frêle skiff du bateau Terre. Nous sommes confrontés à des enjeux fondamentaux, notamment la transformation, je dirais, de la biosphère, des cycles de la nature, des cycles des éléments du tableau de Mendeleïev. Et ces questions-là, on ne va pas les résoudre chacun dans le petit coin parce que l'un croit à Bouddha, l'autre est athée, le troisième veut mettre en avant son identité berbère, le quatrième son identité juive ou son homosexualité. Je respecte évidemment profondément les parcours et la diversité est une des richesses évidemment du monde. Mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est le tous parents plutôt que le tous différent.
À moins de 5 minutes de la fin de cette émission, je vous pose la question vache. Jean Cornille, parmi tous ces philosophes que vous citez, que vous avez cités durant cette émission, que vous avez rencontré, il y a très très peu de femmes. Les femmes ne sont pas philosophes ?
Si, bien sûr, et vous avez Hypatie, par exemple, la grande philosophe qui s'est fait d'ailleurs massacrer par les chrétiens à Alexandrie dans la première moitié, je dirais, du millénaire. Bien sûr, il y a Hannah Arendt, il y a Simone Veil, et j'ai eu la chance de rencontrer récemment Annie Lebrun, il y a Vinciane Desprez, Isabelle Stengers, pour citer des Belges. Bien sûr qu'il y a des tas de femmes, mais je pense qu'il y a encore une domination masculine dans la pensée. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais je pense qu'il y a à la fois des grandes, grandes intellectuelles, mais que, et dans les sciences d'ailleurs exactes aussi, heureusement qu'il y a Marie Curie, qu'on met régulièrement en avant dans la découverte, je dirais, de l'énergie nucléaire par rapport à tous ces hommes. Donc il y a une forme de domination, je dirais, dans la pensée. Et donc je trouve très important que effectivement des femmes comme Elisabeth Rodinesco, avec qui on n'est pas automatiquement d'accord, ou Nicole Lapierre, sont des gens qu'il faut, je pense, ou je pense à quelqu'un comme Julia Kristeva, sont des femmes qu'il faut, ou Elisabeth Banater, enfin voilà, mon esprit s'emballe, je dirais, dans les noms d'un certain nombre de personnes dont j'admire les travaux. Donc c'est évidemment extrêmement important de mettre en avant le travail de ces personnes.
Cette expérience télévisuelle que vous menez depuis 5 ans maintenant avec le Centre laïque de l'audiovisuel, aller à la rencontre de ces philosophes, est-ce que ça vous a apporté quelque chose à titre individuel dans votre cheminement philosophique, ou est-ce que vous êtes plus dans un travail de journalisme, journalistique quand vous faites ces entretiens ?
Pas du tout, ça m'apporte énormément, d'abord parce que je suis très heureux évidemment de rencontrer ces différentes personnes, de les interroger, qu'ils puissent réfléchir avec moi sur la conception du monde qu'ils ont. Et l'objectif de l'émission est toujours que le téléspectateur puisse continuer le travail, la réflexion, en lisant les livres de l'auteur. Donc c'est pour ça que pour moi le livre est absolument fondamental, et je dis même les livres, hein. C'est pour ça que je suis le contraire d'un intégriste, parce que vous savez que Boko Haram, ça veut
vous dire... ne seriez pas là si c'était le cas.
Voilà, Boko Haram, hein, la secte au Nigeria, ça veut dire le livre est interdit, ou bien l'éducation occidentale est un péché, pour le prendre. Et donc ce combat là La valorisation des livres, donc il ne faut pas être l'homme d'un seul livre, sinon effectivement, comme disait saint Thomas, on tombe dans le dogmatisme et dans le fanatisme, et on sait bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais la valorisation des livres me paraît quelque chose d'absolument essentiel. Et donc le fait de pouvoir rencontrer ces gens en ayant lu leurs livres, pas toujours toute leur œuvre, parce qu'un monsieur comme Edgar Morin a une œuvre gigantesque, mais en tout cas j'essaye d'aller, ou même Michel Onfray a écrit plus de 80 livres, mais... essayer, je dirais, de s'imprégner de la pensée, du parcours aussi, de la biographie de ces personnes, parce que je pense que, comme disait Nietzsche, toute pensée est l'autobiographie d'un corps, hein, et donc je pense que ce travail-là, pour essayer de mettre un peu la densité, la profondeur de ces penseurs-là, au travers de leur existence, au travers des traditions dans lesquelles ils s'inscrivent, et aussi du caractère défricheur, parce que je pense que les grands intellectuels, les grands philosophes, sont toujours en avance sur la société. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs pour une part incompris. Je pense qu'un philosophe, pour donner une des définitions parmi beaucoup d'autres, comme dit Michel Serres, c'est quelqu'un qui doit anticiper la civilisation à venir. Ce qui est le contraire du politique, qui est souvent du retard, parce qu'il doit gérer l'immédiateté, il doit gérer l'impuissance d'une certaine manière. Mais donc, la philosophie, c'est vraiment un parcours merveilleux. C'est le chemin, pour moi en tout cas, vers une forme de plénitude, de béatitude, pour reprendre Spinoza, vers une forme de sérénité, et le travail de la compréhension par les idées du monde est un travail absolument d'émerveillement et d'indignation permanent.
Jean Cornille, merci d'avoir pris la peine de nous rejoindre dans ce studio et de philosopher avec nous, de vulgariser avec nous, de faire un petit peu d'éducation populaire ensemble. Et surtout, c'était pour nous l'occasion de parler de ce livre, je le rappelle, « Imaginaire pour des mondes nouveaux, cheminement insoumis en philosophie politique », votre dernier ouvrage, Jean Cornille, qu'on peut se procurer en contactant Présence et Action culturelle par téléphone au 02 545 79 18, et également par internet. À l'adresse édition au pluriel @intrapac.be. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Et je rappelle d'ailleurs que Jean Cornille, on vous retrouvera en télé le 21 juin pour un nouvel entretien philosophique avec Lambros Koulouvaretsis, que la plupart des étudiants de l'ULB connaissent. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.